Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 10 avril 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la CENCO demande une enquête sur la mort d'un curé abattu dimanche dans le Nord Kivu.
Au Sénégal, un franco-sénégalais condamné à 15 ans de travaux forcés pour terrorisme.
En Guinée, l'opposant Ibrahima Camara a été condamné hier pour diffamation et outrage envers le chef de l'État.
Ici aux États-Unis, perquisition du FBI dans les bureaux de Michael Cohen, l'avocat personnel du président Donald Trump.
Le président Trump qui a promis hier des décisions majeures dans les prochaines 24 ou 48 heures en riposte à l'attaque chimique présumée en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la Conférence épiscopale nationale exige l'ouverture d'une enquête après la mort dimanche d'un curé tué par balle dans le Nord Kivu. Des détails avec Raïssa Girondin.
Dans un communiqué, la conférence épiscopale condamne avec force cet assassinat et exige une enquête pour retrouver les auteurs de ce crime et les traduire en justice. La CENCO se dit consternée de payer un lourd tribut à l'insécurité qui règne dans le pays alors qu'elle ne travaille que pour le bien de la nation. L'abbé Étienne Sengiyumba, curé de la paroisse de Kichanga, a été tué dimanche à 80 km de Goma après avoir dit la messe. Ses agresseurs seraient issus d'un groupe d'autodéfense Maïmaï Nyatura qui prétend défendre les Hutus du Nord Kivu. Lundi, 6 gardes ont été tués dans une embuscade dans le parc des Virunga, la vitrine touristique de la province. Vendredi, un autre prêtre, l'abbé Célestin Gango, enlevé par des hommes armés non identifiés, a été libéré contre rançon dans le territoire voisin de Rutshuru, où 3 autres civils enlevés ont été exécutés par leur ravisseur.
Au Sénégal, un tribunal de Dakar a condamné un franco-sénégalais à 15 ans de travaux forcés. Il était accusé de terrorisme. Dans le même temps, le procès de 30 autres personnes, dont l'imam Aliou Ndao, a repris après plusieurs reports. Le point avec Marie Benson.
Ibrahim Ali, 34 ans, a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à 15 ans de travaux forcés pour association de malfaiteurs et apologie du terrorisme. Il était détenu depuis près de 3 ans. Selon l'accusation, cet originaire de Trappes, non loin de Paris, était parti se battre en Syrie dans les rangs du groupe État islamique. Son frère Mansourli a déjà été condamné en 2016 par un tribunal parisien pour des faits similaires. Par ailleurs, le procès de 31 personnes, dont l'imam Aliou Ndao, a repris après avoir été reporté 3 fois. L'un des prévenus, Mokhtar Diohane, alias Abou Anwar, ancien élève de l'imam Dao, a selon le procureur fréquenté le groupe Boko Haram au Nigeria. Il a été arrêté au Niger, puis expulsé vers le Sénégal. Les détenus, pour certains depuis plus de 2 ans, nient les faits. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actes de terrorisme ou encore financement du terrorisme. Leur procès devrait durer plusieurs jours.
En Guinée, un responsable du principal parti d'opposition, Ibrahima Sori Camara, a été condamné hier pour outrage, injure et diffamation à l'encontre du président Alpha Condé. Le point avec Morgane Guiriec.
Un juge de Conakry a déclaré M. Camara coupable de diffamation et d'outrage envers le chef de l'État. Il l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme et 2 millions de francs guinéens d'amende. Ibrahima Sori Camara a également été condamné à verser un franc symbolique à titre de dommages et intérêts à M. Condé. Il avait été arrêté en mars pour des propos tenus sur les réseaux sociaux lors d'une période de forte tension entre le pouvoir et l'opposition qui contestait les résultats des élections locales du 4 février. Les avocats de la défense ont aussitôt annoncé qu'ils allaient faire appel.
L'ancien ministre Moussa Mara au Mali a annoncé hier à Bamako sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 29 juillet. Dans une déclaration à la presse, Moussa Mara a dit vouloir mieux gérer le Mali. Un autre ex-ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, Mohamed Ali Bakili, a annoncé sa candidature la semaine dernière pour que cesse, selon lui, la mauvaise gouvernance. Pour sa part, le président sortant n'a toujours pas dit s'il se représenterait.
Au Niger, les partisans de l'ancien président Ibrahim Barré Maïna Sara ont à nouveau réclamé hier à Niamey la vérité sur son assassinat en 1999 dans la capitale nigérienne. Le général Maïna Sara a été tué sur une base militaire par des membres de sa propre garde le 9 avril 1999, 3 ans après s'être emparé du pouvoir par la force après des élections contestées.
En Sierra Leone, le nouveau président, Julius Maada Bio, a décrété hier une série de mesures pour assurer l'efficacité de l'administration et la salubrité du pays, dont le rétablissement du Cleaning Day instauré par la junte à laquelle il appartenait dans les années 1990. Précision de John Linden.
Tout a commencé samedi lors d'un rassemblement au stade de Freetown. M. Bio, un ancien militaire putschiste, qui avait rendu le pouvoir à un président civil élu en 1996, avait insisté sur la discipline, menaçant de sanctions les fonctionnaires qui ne seraient pas au bureau à 8h30. Selon un communiqué de la présidence publié hier, le chef de l'État et le vice-président en personne se rendront dans les ministères et administrations pour vérifier la présence des fonctionnaires aux heures de bureau. En outre, un jour de grand nettoyage sera observé le premier samedi de chaque mois de 7h à midi à partir du 5 mai. Ibrahim Cissé, un vendeur du centre de Freetown, dit approuver le rétablissement du nettoyage mensuel, ajoutant que le gros problème du pays est que les gens sont feignants et manquent de discipline.
Au Maroc, le leader du mouvement de protestation qui a agité l'an dernier la ville d'Al-Hoceima, Nasser Zefzafi, a fustigé hier un procès politique par excellence lors de sa première audience publique et rejeté toute intention séparatiste. Nasser Zefzafi, 39 ans, est l'un des derniers des 54 militants du mouvement Hirak, appelé à la barre à la suite de manifestations dans le nord du pays. Poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, M. Zefzafi risque en théorie la peine capitale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a qualifié de honte et d'attaque contre le pays la perquisition du FBI dans les bureaux de son avocat personnel Michael Cohen. M. Trump s'est plaint de ce qu'il a appelé un nouveau degré d'injustice. Il a encore parlé de chasse aux sorcières au début d'une réunion hier à la Maison-Blanche avec ses chefs militaires sur la réponse à la récente attaque chimique en Syrie. Va-t-il limoger le procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016? On verra, a répondu M. Trump. Selon le Washington Post, l'enquête de la police fédérale sur Michael Cohen a trait à des soupçons de fraude bancaire et de violation des règles sur le financement des campagnes électorales. M. Cohen avait payé 130 000 dollars à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels quelques jours seulement avant la présidentielle de 2016 pour qu'elle garde le silence sur une prétendue liaison avec M. Trump en 2006.
Concernant maintenant la Syrie, le président Trump a condamné l'attaque à l'arme chimique présumée en Syrie, qu'il a qualifiée d'atroce et d'horrible, en promettant hier des décisions majeures dans les prochaines 24 ou 48 heures sur la réponse américaine. Les États-Unis, a dit le président Trump, détermineront qui est responsable de cette attaque, que ce soit la Syrie, la Russie, l'Iran ou tous les trois ensemble. Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, avait déclaré auparavant qu'il n'excluait pas une action militaire contre la Syrie. Pour M. Trump, il faudra payer un prix fort pour cette attaque samedi contre Douma, dernière poche rebelle près de Damas, attaque qui a fait au moins 40 morts. La Syrie dément avoir utilisé des armes chimiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à la requête de plusieurs de ses membres.
Le président Trump s'attend d'autre part à avoir son sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un en mai ou début juin. Il a tenu ses propos hier après que des officiels américains ont confirmé que M. Kim était prêt à discuter de la dénucléarisation de la province coréenne. Les détails de ce sommet ne sont toujours pas connus, y compris son ordre du jour et le lieu de la rencontre. Mais selon des officiels américains, il y a eu des contacts secrets entre Washington et Pyongyang.
Le président chinois Xi Jinping a promis ce mardi une nouvelle phase d'ouverture économique pour son pays, aux prises avec la menace d'une guerre commerciale face aux États-Unis de Donald Trump. M. Xi prononçait un discours devant de hauts responsables internationaux au forum de Boao pour l'Asie, une conférence surnommée le Davos chinois. La Chine, a-t-il dit, ne cherche pas à dégager un excédent commercial, alors que l'énorme déficit des États-Unis vis-à-vis de la Chine, 375 milliards de dollars en 2017, est l'un des principaux griefs du président américain à l'encontre de Pékin.
Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a prévu, lors d'auditions très attendues au Congrès, aujourd'hui et demain, d'endosser personnellement la responsabilité des erreurs commises par le réseau social qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme. Ce sera la première fois que le multimilliardaire passe sur le grill des élus américains, très remontés contre Facebook, empêtrés dans des polémiques à répétition qui ont pris une tournure retentissante mi-mars avec l'éclatement du scandale Cambridge Analytica.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, a investi près de 6 milliards de dollars jusqu'à mars 2018. Créée en 1973 avec 231 millions de dollars, son capital est passé à 4 milliards de dollars. L'institution siège à Khartoum au Soudan et regroupe 18 pays membres depuis 1975. La BADEA finance des projets de développement des pays arabo-africains dans les domaines économiques, financiers et techniques. La main-d'œuvre immigrée pourrait être une aubaine pour les pays d'accueil. Le FMI encourage les pays développés à recourir à l'immigration pour contrer un déclin de leur population active lié au vieillissement de la population. Le FMI souligne que l'immigration peut contribuer à des gains à long terme tels que la croissance ou la productivité. Le Mexique, les États-Unis et le Canada pourraient parvenir à un accord préliminaire pour la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain ALENA. Le ministre mexicain de l'économie, Ildefonso Guajardo, a estimé que la première semaine de mai est le moment probable. Si l'accord n'est pas obtenu, les États-Unis ne pourront pas le présenter au Congrès pour un vote avant les élections américaines de mi-mandat. La ministre canadienne du commerce a estimé la semaine dernière que le dialogue trilatéral était entré dans une phase d'engagement plus intense.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Inquiétude pour Mohamed Salah avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions.
Eh oui, l'attaquant vedette de Liverpool touché aux adducteurs est toujours incertain pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City ce soir. C'est ce qu'a confié hier en conférence de presse son entraîneur Jürgen Klopp. Mohamed Salah, actuel meilleur buteur de la Première Ligue avec 29 réalisations, était sorti à la 52e minute du match aller en raison d'une douleur à l'aine. On rappelle que l'Égyptien n'a pas pris part au derby contre Everton samedi en championnat. Un match nul, 0-0.
Barcelone sans pression à Rome.
Quasiment qualifié après sa victoire 4-1 au match aller, Barcelone sera ce mardi au stade olympique de Rome pour valider face à l'AS Rome son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une étape de plus sur la route d'un triplé qui se précise.
Fernando Torres va quitter l'Atlético Madrid.
L'attaquant international espagnol, idole des supporters de l'Atlético Madrid, a annoncé hier qu'il allait quitter le club colchonero cet été à 34 ans en raison d'un temps de jeu qu'il juge insuffisant. Surnommé El Niño, l'avant-centre formé à l'Atlético a débuté sous le maillot Rory Blanco à 17 ans, c'était en 2001. Avant de devenir capitaine de l'équipe, il a également évolué à Liverpool, à Chelsea, au Milan AC avant de revenir en 2015 à l'Atlético.
Razzia de médailles pour l'Afrique du Sud aux Jeux du Commonwealth.
Oui, le Sud-Africain Akani Simbine a causé une énorme surprise en battant le favori jamaïcain Johan Blake lors du 100 mètres des Jeux du Commonwealth hier à Gold Coast. Le vainqueur a réussi la deuxième meilleure performance de l'année. Et puis en natation, après le 50 mètres, le 200 mètres papillon, le nageur Chad Lakelow a remporté le 100 mètres papillon. C'est sa 16e médaille accumulée lors de plusieurs éditions des Jeux du Commonwealth. Allez Idrissa, avec vous avant les playoffs, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto et Détroit, 108 à 98. Brooklyn et Chicago, 114 à 105. Oklahoma City et Miami, 115 à 93. Cleveland et New York, 123 à 109. Milwaukee et Orlando 102 à 86, Minnesota et Memphis 113 à 94, San Antonio et Sacramento 98 à 85.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari veut se présenter pour un second mandat lors des élections générales de février 2019. Il devra d'abord obtenir l'investiture de son parti APC, All Progressive Congress. Populaire dans le Nord, M. Buhari aura besoin du soutien du Sud-Ouest, dominé par le groupe ethnique Yoruba, pour gagner. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le professeur de littérature à l'Université publique de Lagos, Tunde Fatunde.
Je croyais qu'il allait renoncer à se présenter pour s'inspirer de l'exemple de Nelson Mandela. Mais il nous a pris au tour, il nous a étonné.
A-t-il tenu ses promesses pendant sa première législature? Que va-t-il vendre aux Nigériens aujourd'hui?
Buhari, pour moi, est un exemple de ce qu'on a dit. Avant qu'il n'arrive pas à son contrat, il a promis de transformer de façon profonde la société nigériane. Il a établi trois points principaux. D'abord, l'insécurité grandissante au Nigeria. Et deux, lutter contre la corruption. Et de trois, essayer de trouver de l'emploi à la jeunesse montante. Il a répété sur ces trois points-là. On se demande pourquoi on ne peut pas accepter la pression de son entourage. Parce que si jamais il arrive au Parlement l'année prochaine, il va certainement reproduire l'échec d'un premier mandat. On va où avec tout ça? Ajouter à l'insécurité, c'est le problème des conflits opposant Mar et fermiers qui l'ensemble du territoire national, surtout dans la région centrale, où les gens se tuent au quotidien, des cycles de 4 mois. C'est-à-dire que tout simplement amener le pays vers l'anarchie et le chaos. Parce qu'à 75 ans, il n'est pas capable maintenant de diriger le pays comme il faut. Et ça, c'est l'opinion très répandue au niveau du pays.
Il a aussi une santé fragile.
Absolument. Ajouté à cela, toutes mes excuses, hein, je n'ai pas envie d'injurier mon président. Sur le plan intellectuel, il n'est pas capable de diriger un pays au 21e siècle. 10 millions d'enfants au Nigeria n'ont pas accès à l'école. Le taux le plus élevé au monde. Plus de 50% de la population adulte sont illettrés. Il ne parvient pas à lire et à écrire.
Mais est-ce que M. Buhari aura un adversaire de taille?
Absolument, bien sûr. Non seulement des adversaires de taille, mais une génération. La jeunesse nigériane va monter contre lui. Oui, parce qu'il n'a plus rien à offrir au pays.
Le professeur Tunde Fatunde de l'Université publique de Lagos.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'opération Flintlock menée par les États-Unis a démarré hier à Agadez, dans le nord du Niger. 8 pays sahéliens, dont ceux du G5 Sahel, ainsi que 12 pays occidentaux, participent à ces manœuvres militaires pour renforcer les capacités opérationnelles des armées locales. Idriss Fall a joint Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey et spécialiste des questions de sécurité dans la région.
Sont des opérations militaires. Vous savez, les États-Unis, avec le commandement pour l'Afrique, AFRICOM, qui est basé à Stuttgart, en Allemagne, chaque année, ils se retrouvent dans un pays pour faire des exercices militaires, entraîner les soldats, construire des casernes qui sont vraiment aux normes internationales et aussi faire des opérations civilo-militaires pour aider les populations locales en médicaments, en infrastructures.
Cette année, il y a combien de pays qui participent?
Bon, on parle d'une dizaine de pays, hein, du G5 Sahel et d'autres partenaires des États-Unis, surtout des partenaires européens, qui sont appuyés en grande partie par des forces spéciales américaines qui sont là pour entraîner les soldats dans la lutte surtout contre le terrorisme qui est d'actualité.
Mais apparemment, ça ne se passe pas qu'à Agadez.
Non, pas du tout. Ça se passe un peu partout. Vous savez que les autres opérations qui se sont déroulées à Difa, il y a des noms de cela, aussi au Tchad, un peu partout. Mais aujourd'hui, l'axe de force principal, c'est la zone d'Agadez. Vous savez que c'est dans cette zone-là qu'il y a la plus grande caserne militaire américaine, notamment avec pétrole. C'est la plus grande caserne militaire américaine qui se trouve dans cette partie ouest-africaine.
Et par ailleurs, cette opération n'a rien à voir avec la présence militaire américaine au Niger.
Non, cette opération n'a rien à voir. Vous savez que les soldats américains sont présents depuis un bout de temps au Niger, mais cette opération pour permettre aux militaires de tous les pays de s'organiser, de se parler, de s'entraîner et d'être vraiment formés par des gens acquéris qui viennent des États-Unis et dans la lutte contre le terrorisme. Mais enfin, au-delà de l'aspect militaire, il y a l'aspect civil où ce sont des infrastructures, des points d'eau, notamment des forages. Et vous avez aussi des écoles qui sont construites. Vous avez également des dispensaires où des médicaments sont distribués gratuitement aux populations-là, vraiment pour qu'il y ait un mélange entre militaires et civils pour se parler, pour régler certains problèmes, surtout en ce moment où le terrorisme essaie de prendre le dessus sur les États africains.
C'était Moussa Aksar, directeur de l'événement à Niamey et spécialiste des questions de sécurité.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Europe, on assiste dans presque tous les pays au renforcement des lois contre l'immigration. En France, un ancien banquier syrien veut donner une chance aux migrants qui veulent exprimer leur talent culinaire. Il a ouvert un nouveau restaurant à Paris pour les aider à mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil. Le point avec Marie Benson.
Avant la guerre en Syrie, Nabil Attar était banquier. Cet ancien avocat avait l'habitude de voyager partout en Europe et très souvent en première classe. Mais son dernier voyage, il l'a fait dans un bateau surchargé avec d'autres immigrants pendant une traversée périlleuse de la Méditerranée. Aujourd'hui, M. Attar est revenu sur le marché du travail, non pas pour compter de grosses rentrées d'argent, mais pour préparer des repas syriens pour nourrir des Parisiens affamés. Nabil Attar, cuisinier, réfugié syrien.
En ayant tout perdu, j'ai dit à ma femme, pourquoi ne pas aller au bout de nos rêves? Mon rêve a toujours été de devenir cuisinier.
My dream is to work as chef.
Attar et sa famille vivaient à Orléans. Il avait trouvé son premier travail dans une agence de vente de voitures. L'année passée, il s'est associé à Marine Madrila et son partenaire pour fonder le festival de cuisine des migrants. Marine Madrila est cofondatrice de ce festival et du restaurant La Résidence.
L'objectif principal de ce festival et du restaurant est d'essayer de changer le regard des gens sur les migrants en mettant en valeur leur talent, leurs compétences et leur héritage culinaire pour montrer ce qu'ils peuvent apporter à nos sociétés.
Le restaurant engage tous les deux mois un différent migrant cuisinier, aidé par des chefs cuisiniers français. Stéphane Gégaud, patron du restaurant parisien L'Ami Jean.
Aussitôt qu'on parle de social, réfugiés, réinsertion, on pense bienveillance et on tire vers le bas parce qu'il ne faut pas trop bousculer tout le monde. Et nous, on a pris le parti justement avec Marine et Louis, Réfugiés Food Festival, de ne pas aller dans cette veine-là. Ce n'est pas parce que tu es dans le social et tu es dans la réinsertion des gens que tu dois tirer vers le bas. Au contraire, tu dois être exigeant à un point où tu dois pousser la gastronomie qui veut faire au summum de la gastronomie.
Keshar Sharma est originaire de l'Inde. Il a cuisiné au Moyen-Orient et en Afrique avant d'atterrir en France comme réfugié. Il aide dans la cuisine du restaurant La Résidence.
Mon pays me manque, mais je suis heureux ici. Jour après jour, c'est ici que je construis ma nouvelle vie.
Day by day, this new life here.
Le projet doit durer 2 ans et jusqu'ici, le restaurant ne désemplit pas. Didier Fèvre, architecte, est un client régulier.
Les saveurs sont très différentes. Elles se marient parfaitement avec la cuisine française.
Bientôt, un nouveau chef fera son entrée au restaurant La Résidence. Alors, le houmous du Moyen-Orient laissera place à une autre cuisine. Attar, lui, est déjà sur un nouveau projet car il compte ouvrir un restaurant syrien à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc.
Sur le continent africain, la nouvelle génération d'artistes hip-hop ou les stars de la pop nigériane s'inspire des anciennes sonorités de la musique congolaise. La guitare solo est de retour. Associée au rythme dansant, cela donne un genre en vogue chez les jeunes. À Kinshasa, la nouvelle génération s'identifie avec ce genre nouveau qui rappelle les anciennes gloires de la rumba congolaise. Reportage de Patrick Abega, repris ici par John Linden.
Vous avez certainement déjà écouté ce son. Celui-ci peut-être. Dans le jargon congolais, cela s'appelle du steven, la signature du rythme congolais, une marque qui s'est répandue partout sur le continent africain.
La musique congolaise a été exportée par des commerçants grecs qui en fait avaient ouvert des maisons d'édition ici à Kinshasa. Alors comme ils avaient plusieurs représentations à travers l'Afrique, déjà vers les années 60, la musique congolaise était vendue partout ailleurs, presque dans toute l'Afrique.
Maintenant, c'est au tour de la nouvelle génération d'importer ces anciennes sonorités, surtout le son de la guitare typique de la rumba congolaise. Pour cette génération, c'est une identité, une marque. Bref, la guitare solo ravive la fierté congolaise.
Dans mon rap, je piquais deux éléments à la musique Ndombolo. Il y a la guitare, mais il y a également un atalaku. Moi, j'ai grandi avec la musique de Wenge, donc de Seben, c'est dans le sang.
Des autres pays que nous respectons aussi se permettent de s'inspirer de la musique congolaise. Et quand on parle de musique congolaise, on parle de son identité qui est le seben. On ne peut pas parler de seben sans la guitare solo. Et la guitare solo est la signature même de la musique congolaise.
Les artistes nigériens sont les plus inspirés. Et quand les DJ mixent, ça cartonne et c'est dansant. Entre la rumba congolaise et la pop made in Niger, le pont est déjà jeté. Robert Kabangangoy.
Aujourd'hui, nous vivons avec la musique nigérienne, une musique qui aujourd'hui s'impose comme une musique africaine la mieux placée ou la mieux vendue actuellement. Mais quand vous écoutez ça, déjà avec tout ce que vous entendez comme guitare, ça fait vraiment du congolais.
Certes, la musique venue du Nigeria fait aujourd'hui danser l'Afrique, mais à travers ses accords de guitare, la musique congolaise reste éternelle.
Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05 temps universel ce mardi, juste après les nouvelles. L'invité de LMF est le champion international de taekwondo, Christian Kombenyondo, membre de la diaspora gabonaise aux USA. Danger, comme on l'appelle dans le milieu du sport et de la musique, nous parlera de ses initiatives et de sa vision pour la jeunesse africaine. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook le mardi. A très bientôt.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir, temps RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab. Notre sujet de cette semaine, la pauvreté est-elle une malédiction? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.